Voilà, nous sommes très contents d'accueillir le père Étienne Michelin, que tout le monde aussi connaît, qui est donc un enseignant au Studium de Notre-Dame de Vie, en dogmatique surtout. Et donc il va nous présenter des miettes christologiques et je suis sûre que ça va faire un très bon pain.
Alors je voudrais parler en quatre points. D'abord, lire avec vous un texte clé qui est celui qu'on trouve dans les septièmes demeures au chapitre 4, verset 8, numéro 8. Puis ensuite, dans le deuxième point, parler de quelques rencontres spéciales, tout à fait spéciales, entre Thérèse et Jésus. Puis dans un troisième point, parler du rapport entre Jésus et Dieu. Et alors, dans un quatrième point, je voudrais donc essayer de dire quelques mots de notre relation avec Jésus. Bon, sans doute, je ne pourrais pas tout faire, mais nous faisons ce que nous pouvons. Partons donc du texte des septièmes demeures, cette phrase fameuse de sainte Thérèse qui dit ceci: « Savez-vous bien ce que c'est qu'être vraiment spirituel ? C'est se faire l'esclave de Dieu et comme tel porter son signe qui est celui de la croix, c'est lui abandonner tellement notre liberté qu'il puisse nous vendre comme il a été vendu lui-même pour le salut du monde, c'est croire qu'en nous traitant de la sorte, il ne nous fait aucun tort et nous accorde au contraire une grande faveur. » Donc je voudrais réfléchir quelques instants sur cette simple phrase que vous devez avoir dans le dossier, en plusieurs points. D'abord, l'art du questionnement chez Thérèse. Voyez, elle se pose la question sur le sens des termes qu'elle emploie. Savez-vous bien ce que c'est que d'être vraiment spirituel ? Évidemment, c'est un champ méthodologique très important pour nous, dans la perspective de la transmission. Que mettons-nous sous les mots ? Être vraiment spirituel. Alors, il y a deux éléments dans sa réflexion. D'une part, est-ce que ce terme « être vraiment spirituel » correspond à ce que je veux exprimer, ce qu'elle veut exprimer ? Et d'autre part, comment ce terme est-il perçu par le destinataire du discours que je produis ? Et sainte Thérèse est toujours très attentive à cela. Est-ce que le mot que j'emploie correspond à ce que j'ai expérimenté, car c'est souvent de cela dont il s'agit ? Et aussi, est-ce que le mot que j'emploie peut être entendu ou pas par ceux auxquels je m'adresse ? Donc la première petite micro-conclusion que nous pouvons tirer, c'est que Thérèse d'Avila est un esprit qui s'interroge. Et que l'interrogation n'est pas en elle quelque chose d'annexe par rapport à sa démarche, mais au fond, comme le rythme de tout son itinéraire. L'art du questionnement, donc, c'était le premier point dans ce texte clé. Le deuxième, c'est quelle connaissance ? Car elle se pose la question, savez-vous bien ? Ça veut dire, avez-vous un bon savoir ? Et comment peut-on acquérir de ce savoir ? Et finalement, quelle connaissance pouvons-nous espérer acquérir de Dieu ? Quel est le statut de la connaissance de Dieu ? La connaissance théologique de Dieu ? Est-ce que c'est possible de dire « je le connais » ? Et alors, cette interrogation, je crois, a comme fruit chez Thérèse d'Avila une très, très grande modestie. La force de son expérience, qu'on va essayer de dire quelques mots concernant Jésus, la force de son expérience s'exprime, en fait, dans une forme de modestie intellectuelle, de discrétion, peut-être, pourrait-on dire. Et surtout quand elle parle des chemins de la prière, quand on essaye de mettre ensemble tous les différents éléments qu'elle rassemble et qu'elle veut transmettre, on se rend compte que dans cette gerbe d'enseignement, il y a comme un fil qui les lie, c'est la modestie, c'est la discrétion. C'est au fond le sens de la grandeur d'autrui. Autrui est au moins aussi grand que moi, aussi mystérieux que moi, et je m'approche de sa relation avec Dieu, qui est encore plus mystérieuse, avec beaucoup de délicatesse. Troisième remarque concernant ce texte clé, qui dit « c'est se faire l'esclave de Dieu » et comme tel porter son signe qui est celui de la croix, c'est lui abandonner tellement notre liberté qu'il puisse nous vendre comme il a été vendu lui-même. Alors, ce « comme il a été vendu lui-même » dans la phrase ici nous indique quelque chose, parce que c'est se faire l'esclave de Dieu comme il a été vendu lui-même, d'où la conclusion, le Dieu dont Thérèse parle, c'est celui qui s'est fait esclave, c'est donc Jésus. Oui. Et ceci est aussi très important, un trait central de la théologie thérésienne. Elle ne déduit jamais pour Jésus ce qu'elle pourrait connaître de Dieu. Dieu étant ceci, ceci et ceci, donc Jésus est ceci, ceci et ceci. Elle fait une démarche inverse. C'est son lien à Jésus va lui découvrir Dieu. Alors évidemment, elle est catholique et elle intègre dans cette démarche tout ce qu'elle a appris par ailleurs, en particulier la Trinité. Mais il y a dans son expérience de Jésus, pas simplement, pas une vérification de ce qu'on sait par ailleurs de Dieu, mais le chemin par lequel on découvre qui est Dieu. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. De ce point de vue-là, Sainte Thérèse d'Avila est d'une très très grande actualité dans les débats sur l'articulation entre christologie et théologie, les débats contemporains. Du coup, lorsque par exemple nous lisons le texte que l'on trouve dans la vie, la page 130 au chapitre 17, ou 18, que je ne savais pas que Dieu est réellement présent dans toutes les créatures, c'est pas le Dieu de Platon, c'est pas le Dieu abstrait, c'est le Dieu Père de Jésus-Christ. Et du coup, entrer en relation avec Dieu présent en elle, c'est entrer dans la relation que Jésus a avec son Père. Elle n'a pas une connaissance de Dieu qui soit comme hors de cette relation filiale ou préalable à cette relation filiale, me semble-t-il. Alors évidemment, cette question de la présence de Dieu en elle, nous allons le voir un peu plus loin, ça pose beaucoup, enfin, elle le vit avec une intensité toute particulière dans le cadre de l'Eucharistie, mais nous y viendrons tout à l'heure. Quatrième aspect de ce texte, qui fait quoi? Parce que vous voyez, être vraiment spirituel, c'est se faire l'esclave de Dieu, c'est lui abandonner, c'est croire. Donc voilà ce que l'on fait. Par conséquent, être spirituel vraiment, c'est poser un acte. Se faire l'esclave. Ça implique une action de soi sur soi. Une determinación determinada. Une détermination très déterminée, un engagement. Et un engagement de soi en vue de Dieu. Mais d'autre part, c'est porter son signe qui est celui de la croix. Or, il y a une réalité, c'est que nous portons le signe de la croix parce que le signe de la croix a été tracé sur nous par l'Église mère au jour de notre baptême. Et donc, nous portons le signe de la croix parce que c'est le signe de la croix qui nous porte et qui nous a été donné par autrui, par l'Église. En sorte que notre « me faire l'esclave de Dieu » apparaît comme une réponse à un don qui nous a été fait. Porté par le signe de la croix, c'est-à-dire par le Christ, nous sommes rendus par lui capables de porter avec lui ce signe. On a ici quelque chose qui rejoint tout à fait ce que Madame Péricot développait sous un autre aspect tout à l'heure, à savoir que les vertus humaines, les facultés humaines deviennent vertueuses dans la mesure où elles sont, comme dirait le Père Chapelle, emmembrées dans les vertus théologales, qui sont le propre du don qui nous est fait et qui nous permettent cette réponse. Voyez ? Alors, du coup, comment se réalise ce porter son signe qui est celui de la croix ? Thérèse l'explique tout de suite après, c'est l'acte d'abandon de notre liberté. Alors le paradoxe est total, évidemment, ici, peut-on abandonner librement sa liberté ? Et en fait, la réponse à ce qui semble bien être une aporie, une antinomie lourde, presque un contresens, n'est compréhensible que dans la mesure où l'on arrive à placer la relation avec Jésus dans le cadre d'une relation qu'on a avec lui qui est antérieure et qui est la relation de création. C'est parce qu'il est le créateur de notre liberté qu'en lui remettant notre liberté, en la lui abandonnant, il peut la sauver et donc la rendre à elle-même, la recréer. L'homme nouveau, vous voyez ? Il ne s'agit donc en aucun cas de perdre sa liberté, mais de la remettre à celui qui l'a créée et qui, plus que tout autre, la regarde avec émerveillement. Danse pour elle. Alors, lui remettre sa liberté dans un but précis, c'est qu'il puisse nous vendre comme il a été vendu lui-même pour le salut du monde. Alors ici, c'est quelque chose de très intéressant, parce que lui remettre ma liberté, existentiellement, c'est une liberté non libérée encore, non totalement libérée. Et le fait que je puisse lui remettre ma liberté non totalement libérée fait que dès maintenant, je peux collaborer avec lui à vendre à la remise, à la livraison, au don qu'il fait de lui-même pour le salut du monde. Autrement dit, la mission de collaboration au salut du monde commence avec le premier don de soi. Elle sera en plénitude au terme, mais elle commence avec le premier don de soi. Alors, dernier point concernant Jésus aussi, c'est la relation forte, parce que vous voyez, c'est lui qui le fait. Et il y a une attitude que sainte Thérèse souligne et qui fait appel à un acte évidemment central dans notre commerce avec le Seigneur, c'est croire. Et sur quoi ceci porte-t-il ? L'objet de se croire, c'est que être vendu comme lui pour le salut du monde est une grande faveur. C'est une grâce. Et que c'est cette grâce-là qui accomplit notre désir de plénitude. Alors, je vous invite à lire la suite du texte. Je ne le fais pas maintenant, mais il y a un « Ainsi, mes sœurs ». un peu plus loin dans le texte. Et elle, cette ainsi, ouvre une perspective tout à fait étonnante, c'est que la vérification de notre esclavage comme Jésus pour le salut du monde, c'est d'être l'esclave de toutes les sœurs qui sont là. Comment on pourra et en quoi on pourra se rendre agréable et utile aux autres. Ce qui montre que pour Thérèse, sa relation à Jésus comme personne est en même temps, dans le même mouvement, une relation à Jésus comme Église. La relation à Jésus est relation à l'Église. Le service de Jésus est service des gens concrets. Donc c'est une pensée qui est évidemment une forte puissance unificatrice pour l'existence concrète. Ça, c'était le premier point sur ce texte clé. Ça va ?
Oui ?
C'est quelques fragments. Hein, c'est... Alors, deuxième point, quelques rencontres avec Jésus. Alors, je me suis rendu compte, et je demande pardon, que le texte de la rencontre que j'avais mis de la conversion a déjà été traité par le père Marie-Laurent. Donc moi, je voudrais juste souligner deux aspects assez étonnant dans ce texte, donc que vous avez dû lire hier. Dans le paragraphe 1, il est dit « Je me jetais auprès de mon Sauveur en versant un torrent de larmes et le suppliais de me donner en cet instant la force de ne plus l'offenser. Bon. » Mais à la fin du paragraphe 2 de ce texte, il y a Marie-Madeleine qui arrive par là. Bon, salut Marie-Madeleine, comment allez-vous? Tout ça, très bien. Bon. Et puis il y a, je me recommandais à cette glorieuse sainte, lui demandant de m'obtenir mon pardon. Alors vous voyez, c'est curieux ça. Mais dans le même mouvement, Thérèse s'adresse au Christ personne et au Christ Église. Parce que Marie-Madeleine, c'est le Christ Église. Alors, si on réfléchit à cet aspect dans le contexte de la Réformation, on voit se dégager une vision de l'Église et de la grâce transformante, ce qui pour Luther était très difficile à reconnaître en raison de son simul justus et peccator, évidemment, même s'il ne faut pas durcir trop, on voit apparaître une vision profondément catholique de l'Église, vous voyez. Encore une fois, se tourner exclusivement vers Jésus, c'est se tourner du même mouvement avec les disciples et grâce à leur prière, grâce à la prière des disciples de Jésus. On pourrait voir aussi, je souligne dans cette rencontre qui a eu une grande importance, comme vous savez, dans toute sa vie, parce que je ne sais pas si on peut parler de seconde conversion, Père Villelem pourra nous l'expliquer, je ne sais pas exactement, mais ça a été vraiment un tournant. Et sur quoi porte ce tournant profondément? C'est une réalisation concrète de la phrase que Jésus dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je n'espérais plus rien de moi-même, j'attendais tout de Dieu. » Voyez. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un déni de soi? C'est tout l'inverse, évidemment. C'est au fond le moment où, lorsque l'on comprend qu'on ne peut pas espérer pour son avenir à partir de soi-même, mais qu'on peut l'espérer à partir de Dieu, on commence à se respecter vraiment. On commence à avoir la juste estime de soi-même. Autrement dit, on arrête de vouloir se tirer par les cheveux pour sortir du marais. Ratzinger aime beaucoup cette comparaison. Il y a un conte allemand, je crois, qui parle de ça et il l'utilise à plusieurs reprises. Ça va? Je voulais juste dire ça sur ce texte. Une autre rencontre très importante, c'est la rencontre, évidemment, qu'elle raconte dans la relation 35, qui est, je crois que c'est le 18 novembre 1572, ou à la mi-novembre en tout cas, 1572. C'est cette histoire vraiment étonnante et où l'on voit l'importance des miettes à ce moment-là. Donc, on le lit, vous l'avez, je pense, dans votre affaire là, si vous voulez, ou peut-être vous l'avez déjà un peu lu. Bon, c'est ça, c'est à la page 8, le deuxième texte, vous pouvez le lire. Bon. La seconde année de mon priorat est dans l'octave de Saint-Martin, au moment où j'allais communier. L'octave de Saint-Martin, 11 et 7 égale 18. Voilà, donc c'est le 18 novembre. Dans l'octave. Le Père Jean de la Croix, qui me donnait la Sainte Eucharistie, divisa l'hostie pour en donner une partie à une autre sœur. Fine miette. Mais, évidemment, Thérèse d'Avila est catholique, et donc, je savais très bien que Jésus-Christ est tout entier sous la moindre parcelle. Ça, c'est pour les gens qui font des homélies. Vous pouvez tout donner en disant très peu, puisque dans chaque miette, il y a la totalité. Pas obligé de faire la synthèse globale depuis Abel le Juste jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bon, c'est très pratique, hein, la miette. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe une rencontre imprévue, inattendue et désirée de sous majestad, sa majesté, qui lui apparaît au plus intime de l'âme, mais par vision imaginaire. Alors là, je suis complètement largué. Bon. Et il lui donne le signe de, justement, son esclavage le plus total pour le salut du monde, à savoir un clou, donc la croix. Et il indique en une phrase, finalement, toute la vocation de la personne. Voyez. Non seulement parce que je suis ton créateur, ton roi et ton Dieu, mais parce que tu es ma véritable épouse. Donc c'est évidemment Dieu époux de l'Église, Dieu époux de son peuple. Le Christ qui a épousé l'humanité, le Christ époux, l'Église épouse, la circulation de l'un et l'autre dans la célébration liturgique, et au cœur de cette célébration liturgique, la communion eucharistique. Donc d'un seul moment, Thérèse d'Avila voit s'accomplir dans la communion eucharistique la plénitude de la vocation de la personne, devenir par la foi l'épouse de son Sauveur. Alors, il y a une conséquence qui est très touchante. D'abord, mon honneur est le tien, ton honneur est le mien. Ça, je vous renvoie aux pages d'Isabelle Velasco dans le bouquin qu'on va publier grâce à Père Videlem, Madame Linig et Madame Velasco, qui va s'intituler « Enfin libre sur les pas de Thérèse d'Avila ». Regardez ce qui se passe. Je suppliais notre Seigneur de dilater ma petitesse ou de ne pas me faire une grâce si excessive parce que ma nature était incapable de la supporter. On ne peut donc pas mesurer le don de Dieu, en l'occurrence la familiarité tout à fait nouvelle et étonnante, la présence de Jésus comme époux dans notre âme. On ne peut pas mesurer le don de Dieu à la capacité supposée qui est la nôtre. C'est le don qui dilate la capacité. Vous voyez ? Du point de vue anthropologique, si nous mesurions la relation à Dieu à nos capacités de le comprendre, par exemple, eh bien nous serions dans une grave erreur. Cette rencontre est évidemment puissamment fondatrice, elle aussi, et elle est à la fois le sceau de la présence enfin du choix dont Thérèse est l'objet, et aussi le début d'une, comment dire, d'un rayonnement, d'une explosion, d'une fécondité qui ne va ne faire que se développer. Alors, il y a une troisième rencontre, juste que je note simplement, c'est la rencontre ultime, évidemment. Mon cher maître et époux, l'heure désirée est donc venue. Il est temps de nous voir, mon bien-aimé, mon maître, il est temps de partir. Oh oui, partons, que votre volonté s'accomplisse. Et puis, après la communion, les sœurs l'entendirent répéter, « Enfin, Seigneur, je suis fille de l'Église. » Ce que je voudrais juste souligner ici, dans cette rencontre ultime, c'est l'articulation entre mon cher maître et mon cher époux. Parce que c'est une chose très frappante chez Thérèse, dans sa rencontre avec Jésus, très nettement, la familiarité, parfois un peu pleine d'humour, à voir comment vous traitez vos amis, il ne faut pas vous étonner d'en avoir si peu. Bon. Donc voilà, une grande, très grande familiarité. La familiarité et le sens de la transcendance en même temps. Jésus n'est jamais le copain sympa. Il est le cher maître et l'époux. Il est le frère, l'ami, elle emploie souvent ces mots-là, mais elle a le sens de la grandeur. Voilà. Familiarité réelle, très simple, je vous donnerai un texte tout à l'heure, et grandeur, et disponibilité à être enseigné, maître. Voilà, j'ai juste pris trois rencontres, celle de 1554, celle de 1572 et celle du 4 octobre 1582. Merci. Alors maintenant, je voudrais réfléchir dans le petit quart d'heure qui nous reste sur la question du rapport entre Jésus et Dieu, et je laisserai tomber le quatrième point sur nos relations avec Jésus. Et donc, c'est le texte du Chemin de perfection, chapitre 27. Parce qu'il y a une réalité, là aussi, tout à fait étonnante. D'abord, nous sommes dans une communauté de femmes très concrète, c'est pareil d'ailleurs dans les communautés d'hommes et dans les communautés mixtes. Une des causes des divisions réelles entre les personnes, c'est leur origine. Donc si on n'a pas un papa qui est bien placé, ben on a, voilà, quoi. Et puis si jamais on a mieux réussi que le papa, c'est encore pas bon, enfin tout ça, elle décrit ça tout d'un coup. Et puis elle dit, bon, cela ne s'applique pas à vous, mais enfin, bon, elle sait très bien que ça s'applique aussi à elle. Bon. Et voici vers quoi elle arrive. Dans la complexité donc de la vie concrète, la vie fraternelle entre les gens est possible à cause de l'excellence du Père que nous donne Jésus. Jésus comme celui qui nous donne le Père. Quel excellent Père vous avez, mes filles, en celui que vous donne le bon Jésus. Donc on peut considérer notre frère Jésus comme celui qui nous donne son Père. Souvent, on est habitué à l'inverse, on dit « le Père nous donne le Fils ». C'est tout à fait juste, bien sûr, mais Thérèse remarque que c'est le Fils qui nous donne le Père. Alors, il y a un passage dans le numéro 7 de ce chapitre 27 qui est évidemment extraordinaire et qui vous montre à la fois la modestie de Thérèse et aussi son expérience qui est quand même bouleversante. Je vous le lis. Alors, vous avez des sujets de consolation, mais pour ne pas m'étendre davantage, je préfère les laisser à vos réflexions. Vous voyez sa modestie. Réfléchissez par vous-même, vous trouverez des choses. Vous trouverez. Allez-y. Bon. En dépit de tous les égarements de votre esprit, entre un tel fils et un tel père, vous rencontrerez nécessairement le Saint-Esprit qui enflammera votre volonté. voyez, le compagnonnage de Thérèse avec Jésus est pour elle une expérience du mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On pourrait dire qu'il y a chez elle un lien très fort entre l'expérience de l'humanité de Jésus et l'expérience trinitaire. Et on apprend quelque chose d'intéressant concernant les esclaves, c'est que le texte continue, ce très puissant amour, parlant de l'Esprit Saint, la tiendra enchaînée, votre volonté, la tiendra enchaînée, la tiendra esclave. Dans le cas où le grand intérêt que vous y avez n'y suffirait pas, trait d'humour, dans le cas où vous n'y arriveriez pas par vous-même, virgule, ce qui est absolument évident. Ce très puissant amour, vous voyez, la tiendra enchaînée, votre volonté. Donc, si vous êtes entre un tel fils et un tel père, eh bien, vous êtes esclave et c'est le Christ qui s'en occupe. Alors, elle développe cela dans la relation 56, en 1575, au monastère de Séville, où elle fait elle comprend, sans pouvoir en parler, que... Alors, c'est quand même... on me fit alors entendre des choses étonnantes. Bon, je compris notamment comment la personne du Fils s'est incarnée et non les autres. C'est la grande question en théologie, et puis même dans notre vie chrétienne. Quelle est l'articulation entre l'humanité de Jésus et puis la Trinité? Bon. Alors, elle dit en même temps, je compris, je suis impuissante à en parler. Donc, ça, c'est une chose aussi très caractéristique, me semble-t-il, dans notre vie chrétienne, qui est donc notre vie d'union concrète à Jésus, proprement notre vie théologale dans la foi, l'espérance et la charité. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons, que nous reconnaissons et dont nous sommes impuissants à parler. Mais ces choses que nous connaissons, que nous comprenons, modifient progressivement notre comportement parce qu'elles font grandir l'amitié qui nous rend saints. Alors, du coup, elle râle un peu, donc elle dit, « Seigneur, donne-moi quelques moyens qui me permettent de supporter la vie. » Il me fut répondu, ça c'est rigolo quand même, c'est pour les gens qui planent un peu, « Songe, ma fille, qu'après ta mort, tu ne pourras plus accomplir pour mon service ce que tu fais maintenant. » Donc arrête de râler. Quand même. Mais après tout, « Prends pour moi la nourriture et le sommeil. » La dimension est extrêmement concrète de la relation à Jésus qui a l'air de lui dire, écoute, au ciel, moi je ne peux plus manger, donc mange et dors pour moi. C'est une manière pour toi de me rendre présent à ceux qui mangent et dorment, en fait. C'est ça. Tout ce que tu fais, fais-le pour moi. Comme si tout cela n'était plus vécu par toi, mais par moi-même. Et alors, c'est dans le cas où Jésus cite saint Paul, après. Hein. C'est là ce que disait saint Paul. 1 Corinthiens 10, 13. Non, mais c'est très impressionnant de voir comment Jésus, vous voyez, se donne à connaître à Thérèse à partir aussi de l'Écriture. Il y a une circulation ecclésiale très, très simple, très belle, très concrète. Hein. Et donc, le plus on connaît la Trinité, on a l'impression, plus on est proche de la réalité ecclésiale la plus quotidienne. Vous voyez, c'est ça qui rayonne de ces textes. Alors, il y a un texte absolument fantastique, c'est dans la relation 57, monastère de Séville, je ne sais même plus si je vous l'ai mis. Si je vous l'ai mis, on va terminer par celui-là, parce que je vois que... est-ce que je vous l'ai mis? Oui, c'est page 9. Alors là, c'est... Écoutez ça. « Un jour après la communion, il me fut donné à entendre comment le corps sacré de Jésus-Christ est reçu par son Père au-dedans de notre âme. » J'avais déjà vu et compris de quelle manière ces trois divines personnes se trouvent en nous. Elle est bien chanceuse, hein, quand même. Elle avait bien compris, elle a déjà compris. Ça, c'était classé. Et combien est agréable au Père cette offrande de son Fils, parce qu'elle lui donne lieu de prendre ici-bas sur la terre ses délices et ses complaisances en lui. l'humanité du Fils n'est pas dans nos âmes. Seule sa divinité s'y trouve. Donc ce qui se passe dans la communion eucharistique, c'est qu'on donne au Père la joie d'accueillir l'humanité glorifiée du Fils. Vous aviez déjà compris ça, vous ? Non ? C'est étonnant. Alors, est-ce que c'est complètement juste ? Moi, je n'en sais rien. Mais lorsque quand Dieu Trinité habite dans nos âmes et que l'humanité avec la divinité, le Fils en son humanité glorifiée, l'hostie arrive en nous, le Père l'accueille. Le Père l'accueille. C'est ce qu'elle dit ici. Je compris qu'il reçoit ce sacrifice même lorsque le prêtre qui l'offre est en état de péché. Alors ça, c'est bon pour nous. C'est que sa demande pour que nous bénéficions de cette joie du Père d'accueillir l'humanité glorifiée de son Fils dans l'Eucharistie lorsque nous communions, ça demande de notre part que nous soyons en état de grâce. Voilà. Un texte vraiment étonnant. Alors, elle remarque, comme ça fait un peu longtemps qu'elle l'a vécu, si j'avais redit ces choses au moment même, je les aurais mieux expliquées. Voilà, la modestie. Je les aurais mieux expliquées. Elles sont cependant importantes à connaître. Notre intérieur renferme de si grands mystères à l'heure de la communion. L'humanité de Jésus est reçue par le Père. Il est fort dommage que ce qu'il y a de corporel en nous ne nous permette pas d'en jouir. Ça se passe tellement profondément que ça échappe à notre sensation, à notre ressenti. Bon, je ne dis que ça sur ce texte. Alors, peut-être dans les 6 minutes qui nous restent, je voudrais dire quand même quelques mots sur nos relations avec Jésus. Et la première chose que je veux dire, c'est ce que vous trouvez dans le chemin de la perfection, chapitre 26. C'est l'extraordinaire familiarité que Thérèse a avec Jésus. En particulier au numéro 4, 5 de ce chapitre 26, c'est vraiment extrêmement touchant. Je vous dis juste une phrase, ou bien encore, voyez-le chargé de la croix, alors qu'on ne lui laisse pas même le loisir de respirer, il tournera vers vous ses yeux si beaux, si compatissants, tout baignés de larmes. Il oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres, et cela uniquement parce que c'est auprès de lui que vous allez chercher consolation, parce que vous tournez la tête de son côté pour le regarder. Alors, elle dit aussi, attention, hein, si ça vous pèse trop de le voir dans la souffrance, n'hésitez pas, hein, allez plutôt le voir dans la joie de la résurrection. Hein. Ne vous forcez pas, ne vous forcez surtout pas, parce que c'est rude la passion. Donc, soyez libre. Allez le trouver là où vous êtes le mieux avec lui. Mais une question surgit, sur laquelle je terminerai, et c'est la tentation, évidemment, qu'a eu Thérèse, comme elle vient de le dire tout à l'heure, à cause de ce qui est corporel en nous, nous ne jouissons pas de tout. Or, l'humanité de Jésus, c'est un corps. Faut-il donc se séparer du corps de Jésus pour jouir de tout ? Comprenez ? Est-ce que l'humanité de Jésus ne serait pas un obstacle à la perfection de la contemplation ? Alors, le chapitre 22 de la vie est extrêmement intéressant sur ce point. Je n'ai pas le temps maintenant de le développer. Je vous dis juste un extrait qui est peut-être central. D'abord, elle s'étonne et elle le dit à Jésus. Elle dit « Et moi, mon cher maître, j'ai pu me résoudre à te quitter dans la pensée de mieux te servir. » Elle a cru à un moment qu'il fallait qu'elle s'éloigne de Jésus en son humanité pour mieux le servir. Alors elle est désolée, dans quelle détestable route je m'étais engagée, Seigneur. Si tu ne m'avais remise dans le vrai chemin, sans nul doute je m'égarais entièrement. Mais alors, elle réfléchit à cette question et voici ce qu'elle dit. Pour plaire à Dieu, pour recevoir de lui de grandes grâces, il faut, et telle est sa volonté, que l'âme passe par les mains de cette humanité sacrée en laquelle il a déclaré se complaire. C'est délice avec les enfants des hommes, la sagesse. J'en ai fait l'expérience un nombre infini de fois, et notre Seigneur lui-même me l'a dit, j'ai reconnu manifestement que c'est la porte par où nous devons entrer si nous voulons que sa souveraine majesté nous découvre de hauts secrets. Et alors, elle appuie cela sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que cette humanité concrète de Jésus, c'est notre modèle de vie. Regardez sa vie, dit-elle à Garcia de Toledo, à qui elle écrit, il n'est pas de meilleur modèle. Et puis, elle s'appuie aussi sur les saints. Elle parle de saint Paul, c'est la référence directe à l'Écriture qu'elle connaît très bien. Et puis, elle a eu besoin de faire une enquête dans la théologie des saints. Elle parle de saint François, donc ce n'est pas saint François de Sales, il n'était pas encore né, ou tout juste. C'est François d'Assise. Elle parle d'Antoine de Padoue. Elle parle de Bernard et elle parle de Catherine de Sienne. Quatre personnes qui l'ont précédée et qui l'aident à vérifier ce qu'elle a découvert intérieurement. Vous voyez ? Donc chez Thérèse, la connaissance, l'expérience de Jésus très personnelle, unique, mais elle cherche toujours à l'authentifier par l'Église. Et pas simplement par les théologiens qui peuvent se tromper, comme ça lui est arrivé pour la question de la présence, mais par le dialogue avec les saints. Alors, je termine avec le principe qu'elle énonce. Étant homme, il nous est très avantageux, tant que nous sommes en cette vie, de considérer Dieu fait homme. Étant homme, il nous est très avantageux, tant que nous sommes dans cette vie, de considérer Dieu fait homme. Écoutez, je vais terminer comme ça. Merci beaucoup de votre attention.